Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup de venir ouvrir cette nouvelle année des cafés scientifiques neuchâtelois. Je voudrais donc tout d'abord remercier Jean-Jacques Aubert qui a suggéré cette idée, qui a suggéré ce café et qui a aussi convoqué les intervenantes et les intervenants qui sont réunis à la table ce soir. Je vous remercie d'être aussi nombreux, et puis sans plus attendre, je passe la parole donc au nom du comité des cafés scientifiques à Jean-Jacques Aubert. Merci.
Merci. Ça fonctionne ou bien oui? Très bien. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce café scientifique. Vous aurez peut-être lu en date du 14 décembre 2018 que à Accra, la capitale du Ghana, sous la pression de la faculté et des étudiants, les autorités de l'État ont déboulonné de nuit une statue du Mahatma Mohandas Gandhi, qui est mort en 1948, assassiné, parce qu'il avait marqué implicitement et explicitement un sentiment de supériorité des Indiens par rapport aux Africains lors de son long séjour entre 1893 et 1914 en Afrique du Sud. Ça se passait le 14 décembre, il y a juste un mois. Une semaine après, le 21 décembre, The Economic Times, un quotidien indien, titre « Ghana to reinstall statue of Mahatma Gandhi at prominent location in Accra ». Donc voilà, en une semaine, on a fait l'aller et le retour, c'est-à-dire qu'on a déboulonné Gandhi parce qu'il avait tenu des propos, disons, sinon racistes, en tout cas dérogatifs vis-à-vis des Africains. Et puis une semaine après, eh bien, les Indiens se félicitent du fait que la statue déboulonnée va être installée dans dans un endroit qui est cette fois-ci « prominent », n'est-ce pas ? Un endroit de choix. Évidemment, les autorités du Ghana s'étaient inspirées des autorités neuchâteloises, puisque quelques mois auparavant, eh bien, nous avions eu le droit à un petit mélodrame neuchâtelois, puisque le Conseil général avait présenté deux motions auxquelles le Conseil communal avait répondu, et le tout s'était soldé par le changement de nom de l'adresse de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Neuchâtel, et nous dit-on, avec l'accord du rectorat. Mon ami, le secrétaire général de l'université, me souffle que du temps de l'ancien rectorat, ça ne serait jamais passé, n'est-ce pas ? Mais voilà, la réalité des faits est celle-ci. Nous avons changé, non pas de rectorat, mais de nom pour l'adresse de l'espace Agassi qui va devenir l'espace Tilofré. Et puis en fait, ce n'est pas exactement ce que demandaient les motionnaires à la base, puisqu'ils demandaient simplement l'adjonction d'un explicatif pour montrer que la personne qui avait été honorée dans les années 80 par cette place, eh bien, avait un curriculum vitae qui n'était pas entièrement positif, et puis ils demandaient en tout cas qu'on tienne compte aussi des aspects un peu plus sombres de ce parcours. Et puis, finalement, de fil en aiguille, on en est arrivé à rebaptiser, puisque ça s'est conjugué avec une autre motion qui demandait de faire de la place pour une ancienne conseillère nationale. En soi, c'est anecdotique, n'est-ce pas ? Ça n'a probablement pas fait trembler le monde, si ce n'est Accra. Mais ce qu'on peut se dire, quand même, c'est que ça a suscité des réactions au sein de la communauté universitaire, au sein de la population. Certains de mes invités ont réagi eux-mêmes, d'autres font partie des initiants. Il semble que tout le monde a un avis sur la question et je trouvais que c'était bon d'en débattre ici ce soir. Alors je vous rassure, nous n'allons pas refaire une analyse en profondeur des mérites et des tares de Louis Agassi. Ça a été fait, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passait dans l'histoire au 19e siècle. Ce qu'on va plutôt essayer d'examiner ensemble ce soir, c'est la démarche qui consiste à retourner sur le passé des individus et à parfois prendre des actions politiques qui ne peuvent être que ponctuelles, puisqu'on doit s'intéresser à une personne après l'autre, ou à une personne sans après l'autre, et que de ce point de vue-là, ça pose aussi des questions déontologiques de savoir est-ce qu'on peut se limiter à un exemple. On peut imaginer qu'à Accra, il n'y aura que la statue de M. Gandhi qui va être déboulonnée et reboulonnée. À Neuchâtel, on aurait pu imaginer, ça a été suggéré par certains de ceux qui avaient un avis sur la question, qu'on aurait pu continuer de faire le nettoyage et puis s'en prendre aux Depurie et du Pérou. Évidemment, j'ai parlé avec une des initiantes que j'avais invitée initialement, mais qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Et elle m'a dit, oui, mais tu comprends, il y a une très grande différence entre M. Depurie et M. Agassi. C'est que M. Agassi était un théoricien du racisme, tandis que M. Depurie était une personne qui a profité d'un système esclavagiste et que, en fait, c'est beaucoup plus grave dans le premier cas que dans le second cas. Et personnellement, dans ma réaction d'universitaire, pas de citoyen, pas de politicien, mais dans ma réaction d'universitaire, le péché de pensée est bien moins grave que le péché d'action. C'est-à-dire que, étant un garant parmi tant d'autres dans cette salle de la liberté de pensée et d'expression, je me dis, si on ne l'applique pas à des idées choquantes, elle ne sert à rien. Et voilà pourquoi je pense que quelque part on doit y aller avec quelques précautions quand on veut fustiger une personne pour sa pensée. En revanche, il ne me semble pas que la communauté universitaire soit jamais encline à vouloir défendre, justifier des actions. Et c'est pour ça que la question que je me posais en tant que citoyen, c'est de savoir dans quelle mesure le travail qui a été commencé par le Conseil général et le Conseil communal en été 2018 ne devait pas être poursuivi. Et puis, en écoutant une des initiantes, une des motionnaires, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout dans les intentions. Et c'est ce dont j'aimerais débattre avec vous ce soir. J'ai quatre invités à qui j'ai posé des questions individuelles pour qu'ils puissent se présenter l'un après l'autre. Alors, je vais introduire chacun des conférenciers avant de lui donner la parole. Je vais commencer avec M. Rémi Scheurer, professeur émérite en histoire médiévale, ancien conseiller national PLR et surtout ancien recteur qui était en fonction au moment où l'espace Agassi a trouvé son nom pour la bonne raison qu'on a construit UNILAC dans les années 80 et qu'il a fallu donner une adresse à cette UNILAC. Et M. Scheurer, en tant que recteur, a suivi, a participé au débat qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu en relation avec le choix de la personne honorée par l'espace Agassi. Alors, je passe la parole à M. Scheurer, à qui j'ai donné entre 5 et 7 minutes pour, présenter son point de vue avant de passer au prochain intervenant.
Merci, M. le Président. Qu'est-ce que j'en fais ?
Ça marche, je crois que ça marche. Je crois qu'il
faut parler dedans. Merci, M. le Président. Je me permets de vous corriger, je ne suis pas professeur émérite, je suis professeur honoraire. Quand j'ai pris ma retraite, il n'y avait pas encore de professeur émérite. Il faut faire attention à la chronologie, on commet quelquefois des fautes qui n'ont aucune importance, quelquefois on commet des fautes beaucoup plus graves avec les anachronismes. Lorsque le quartier des Beaux-Arts a été gagné sur le lac à la fin du XIXe siècle, ces rues ont reçu d'une part les noms de bienfaiteurs de la ville, d'autre part les noms d'illustres savants. Abraham-Louis Breguet, Édouard de Sors, Charles-Édouard Guillaume et Louis Agassi. Une modeste rue, Agassi, qui fut encore raccourcie en 1958 avec la construction de l'Institut de physique, puis qui a pratiquement disparu avec la construction d'un nouveau bâtiment pour l'école de commerce. Cette situation parut au Conseil communal, et ici je cite textuellement M. Blaise Duport, alors président de la ville, cette situation parut au Conseil communal être indigne du très grand savant que fut Louis Agassi. Et M. Duport continue son allocution en 1988, la construction d'une nouvelle faculté des lettres sur les jeunes rives, ainsi que la perspective de fêter aujourd'hui le 150e anniversaire de l'Académie, nous permettent heureusement de réparer l'oubli presque total qui menaçait Louis Agassiz, du moins dans la nomenclature des rues de Neuchâtel. C'est donc parce qu'une rue Agassiz existait déjà et parce qu'Agassiz est en grande partie à l'origine de la première académie et de ce fait à l'origine de notre université qu'il existe un espace Louis Agassiz. Monsieur Duport rappela aussi la notoriété exceptionnelle due par la ville à Agassiz qui créa et développa le musée d'histoire naturelle. Je passe rapidement sur ce qui fut encore dit d'Agassiz lors du dies académique de 1988, où l'ambassadeur des États-Unis rappela ce que les universités de Princeton et de Harvard doivent l'une à Arnold Guyot et l'autre à Louis Agassiz. Et dans une lettre adressée à notre université, le président de Harvard dit que le musée d'anatomie comparée fondé par Agassiz demeure l'un des plus grands trésors de son institution. En supprimant Agassiz de la topographie urbaine, le conseil communal s'aligne, à mon sens, intellectuellement sur une tendance assez forte qui consiste à juger des événements du passé comme s'ils avaient lieu aujourd'hui, à leur appliquer nos critères actuels d'évaluation et à oublier le contexte temporel. Du même coup, comme le rappelait récemment le maître du barreau français qu'est M. Dupont-Moretti, les individus cessent d'être complexes, ils sont tout blancs ou tout noirs. Et de toute manière, ce n'est pas sur une plaque de rue qu'on va pouvoir introduire des nuances que l'on introduirait à coup sûr dans une biographie. Il est vrai qu'Agassiz a été raciste, même si le mot « raciste » n'apparaît dans notre langue que près de 20 ans après sa mort. Le racisme n'était donc pas un sujet de débat au temps d'Agassiz. Il est vrai aussi qu'il n'a jamais été favorable à l'esclavage. Ce sont des notions très distinctes. Mais qu'est-ce que les glaciers ou les poissons fossiles ont à voir avec le racisme? Et à quoi Agassiz doit-il d'avoir un sommet des Alpes à son nom, comme aussi deux lieux sur la surface de la Lune? La condamnation anachronique et rétroactive rendue immédiatement exécutoire par le Conseil communal est certes dans ses compétences topographiques, mais a-t-il eu, en prononçant cette sentence, conscience qu'il contribue à faire croire que l'évolution n'existe pas et que tout peut être évalué non pas dans la durée, mais en fonction du seul point de vue que nous occupons aujourd'hui dans le temps. Si on se résume à considérer seulement que les opinions ayant changé, c'est l'opinion qui a lieu maintenant qui doit s'imposer au reste, on se coupe de toute altérité, de toute évolution, et on se condamne à ne plus rien comprendre à l'évolution humaine. Et pourtant, quelle évolution entre le moment où le mot « race » s'apparentait à celui de famille, on dit que les Capétiens sont les rois de France de la troisième race, Race est un mot que Voltaire définit comme s'il s'agissait de zoologie. Dans le traité sur les mœurs, la race des nègres est une espèce d'homme différente de la nôtre, comme la race des lévriers l'est des épagneuls. Ou encore, l'utilisation de la notion de race brutalement ou sournoisement utilisée dans les dictatures contemporaines. En résumé, en retirant une plaque de rue, le conseil communal se contredit absolument, alors qu'entre 1988 et aujourd'hui, il n'y a aucun fait nouveau réel dans la connaissance que nous avons d'Agassi. Il cède à un mouvement général qui comporte des risques bien plus graves encore qu'un aggiornamento permanent des noms de lieux. Si on se met à changer les noms de lieux, bon, ça mène très loin, d'accord, c'est possible. Et il ouvre la voie à d'autres problèmes du côté de la place Pury et de l'hôtel du Pérou. C'est beaucoup pour une décision qui n'était pas demandée par le postulat du 7 juin 2018. Je vous remercie.
Merci. Merci. Je passe au second intervenant, M. Dimitra Parat, hydrogéologue de formation, qui est en passe de finir un master en droit, qui est conseiller général et militant antiraciste, et qui de surcroît était dans le groupe des postulants du 7 juin, on vient de rappeler la date, du 7 juin 2018, et qui l'a fait donc de concert avec des membres du parti du POP et des Verts, je crois, et qui, disons, va nous expliquer maintenant un peu comment il situe cette démarche en connaissant, disons, l'arrière-plan des années 80 et surtout donc en ayant pris connaissance aussi du débat qui a eu lieu l'été passé et puis des réactions qui ont, disons, été enregistrées depuis la décision du Conseil communal. Monsieur Parat.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci au professeur Robert pour son invitation. Vous avez à disposition ici une petite dizaine d'exemplaires de l'interpellation, excusez-moi, du groupe POP Les Verts Solidarité. Je fais partie de Solidarité à titre personnel. Et la réponse du Conseil communal qui a suscité tant de polémiques. Pour revenir un tout petit peu en 88, je voulais tout d'abord commencer par citer Christophe Blocher. Était donc fondateur de l'amicale suisse Afrique du Sud, futur conseiller fédéral et baron de la chimie. On doit tout de même voir que l'Afrique du Sud est de tous les États africains l'État qui fonctionne le mieux, économiquement et socialement. Notamment le socialement souligne à quel point on a accepté l'organisation et la structuration raciste des sociétés et qu'en 88... c'était une notion encore généralement admise, on n'avait pas besoin de l'abolition de l'esclave, d'être encore dans une discussion de fin de la ségrégation aux États-Unis ou tout ça. En Suisse encore, des gens défendaient ce fonctionnement totalement antidémocratique et ségrégationniste que Agassi a contribué à mettre sur pied en développant ses théories scientifiques à une époque où il était déjà alors contesté. Il est parti de Neuchâtel, avant 1848, mais c'était un royaliste ou quelqu'un de très fortement soutenu par le régime prussien et qui a dû partir. Qui a dû partir alors que la Suisse était un pays qui accueillait de nombreux réfugiés. On pourra nommer, je vais encore faire une autre citation de quelqu'un que j'aime bien plus, Élisée Reclus, géographe anarchiste, qui nous dit ça sur les vérités historiques. Nous n'acceptons pas de vérités promulguées. Nous la faisons nôtre d'abord par l'étude et par la discussion, et nous apprenons à rejeter l'erreur, fût-elle mille fois estompillée et patentée. Que de fois, en effet, le peuple ignorant a-t-il dû reconnaître que ses savants éducateurs n'avaient d'autre science à lui enseigner que celle de marcher paisiblement et joyeusement à l'abattoir, comme ce bœuf des fêtes que l'on couronne de guirlandes de papier doré. » Donc pour revenir un petit peu sur notre démarche, je dois commencer par préciser pour ceux pour qui ce n'est pas évident, nous n'avons pas voulu effacer qui que ce soit de l'histoire. Et je constate avec satisfaction qu'on n'a jamais autant et aussi précisément parlé d'Agassi et de son héritage que ces derniers temps. On ne réécrit pas l'histoire en parlant. Et il est bon de rappeler que le nom des places a effectivement une vocation mémorielle, mais que ce n'est pas l'histoire en tant que telle. Nous ne voulons pas trafiquer de photos ou que sais-je, on s'est fait accuser et insulter d'être des révisionnistes ou quoi que ce soit. Ce n'est évidemment pas notre camp politique qui fait du révisionnisme. Parce que le problème est bien là. On ne veut pas parler d'une histoire en Suisse que les historiens de la classe dominante ont voulu taire. Une histoire particulièrement criminelle, basée sur une idéologie raciste, à savoir l'organisation coloniale du commerce international et notamment l'esclavagisme, qui était justifié par une soi-disant suprématie des Blancs sur les Noirs, que Agassi a contribué à construire par des publications scientifiques. Je ne remets pas en question ces considérations sur la glaciation qui ont servi à construire le mythe national de nos ancêtres, les lacustres et toutes ces combines, mais évidemment que la science, y compris les sciences naturelles, ont évolué depuis et que ces théories déluvianistes, voilà, excusez-moi, sont aujourd'hui complètement périmées puisque c'était un créationniste convaincu qui a passé la plus grande partie de sa vie à combattre Darwin et les théories qui sont aujourd'hui hégémoniques sur des questions d'histoire naturelle et d'évolution des espèces. Le groupe Pop Versal a voulu donc poser la question, une question précise, celle du passé colonial et du racisme, qui n'est pas une question intime qui proviendrait de gens méchants, qui ne respectent pas les autres, mais qui ont été justement construits dans l'histoire par tout un tas de rapports sociaux et économiques dont la Suisse a très largement profité. Nous n'avons pas voulu lier la question à David de Pury, même si à titre personnel, je serais tout à fait favorable à ce qu'on débaptise la place Pury. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une discussion sérieuse sur ce racisme scientifique, sur les conséquences que ça a aujourd'hui, etc. Parce qu'évidemment, le racisme a aujourd'hui toujours des conséquences particulièrement catastrophiques. Je ne suis pas sûr de voir plus d'une personne noire dans cette salle, mais ils sont évidemment bien plus en proportion que la blanchitude ici. Et à titre d'information, pour ceux qui ne s'intéressent pas à ce genre de nouvelles, dans le canton de Vaud, au cours des dernières années, il y a eu 3 personnes qui sont mortes en main de la police, et ces 3 personnes sont noires, tabassées à mort à 50 mètres de l'entrée principale de la gare de Lausanne, en cellule ou bien tuées par balle dans la rue. Donc, ça a des conséquences extrêmement matérielles, et je m'insurge un peu contre les considérations du professeur Aubert qui dit que le péché de penser n'a pas de conséquences. Évidemment, si nous n'avions pas accepté une organisation raciale de nos sociétés et des échanges coloniaux, des échanges inégaux coloniaux, jamais il aurait été possible d'avoir les drames que le XXe siècle a connus. Les théories raciales des scientifiques du Troisième Reich étaient évidemment s'inscrivent dans une continuité idéologique et non pas scientifique mais idéologique avec ces mêmes personnes. Et je me permets encore comme dernier point sur le révisionnisme. Le 150e en 88, c'est du révisionnisme. Une des premières mesures du Parlement élu suite à la révolution neuchâteloise du 1er mars 1848 a été de fermer l'Académie, qui était un repère de réactionnaires, qui n'a réouvert qu'en 1963. Et donc, c'est bien au départ, le départ d'Agassi n'était pas simplement par l'intérêt pécunier d'aller aux États-Unis faire de la science spectacle qui a pour très longtemps marqué les sciences naturelles nord-américaines par le créationnisme, parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 34% des États-Unis qui ne croient pas, parce qu'ils pensent que c'est une question de croyance, qui ne croient pas dans les théories de l'évolution et qui pensent que les espèces ont été posées comme si les dinosaures et tout ça ont été posés par Dieu et qu'ils n'ont jamais changé et que les Noirs sont par conséquence une espèce différente avec laquelle, pour certains, il ne faut pas se mélanger. Donc ça a des conséquences très graves qu'il faut aujourd'hui dénoncer, ce qu'on a fait avec succès. Et je suis content qu'on ait ce débat ce soir au Conseil général de la ville de Neuchâtel.
Merci. En l'occurrence, nous ne sommes pas au Conseil général, mais à l'université. Mais nous pouvons continuer néanmoins avec Madame Isaline Delay-Deray, qui est doctorante à la faculté des lettres de Neuchâtel en histoire de l'art, qui est responsable d'un projet intéressant qui est le Français pour tous, qui est une habitante du quartier de l'espace Agassi, et puis qui, disons, en tant que futur professionnel universitaire, eh bien, doit porter le lourd fardeau d'avoir été, disons, domicilié académiquement à l'espace Agassi pendant toute la durée de ses études. Parce qu'en fait, c'était un des arguments qui avait, semble-t-il, porté à l'université, c'est de dire que, on gardait cette adresse au détriment du rayonnement de l'université. Alors la question que j'ai posée à Madame Delay-Deray, c'est de savoir quelle est sa réaction en tant qu'étudiante, doctorante, future professionnelle, vis-à-vis de la démarche d'une part, vis-à-vis d'autre part, des réactions nombreuses et multiples et diverses que cette démarche a suscité, et peut-être de manière plus générale, quelle est sa position par rapport à une forme moderne de damnatio memoriae. Isaline.
Oui, merci. Oui, donc les motionnaires, c'est-à-dire les membres du groupe Pop Versol, suggéraient que le nom de Louis Agassi entache l'image de l'université. Cet argument est d'ailleurs repris dans le rapport du Conseil communal au Conseil général, datant du 28 août 2018. Je vous le cite parce que, à mon avis, il s'agit d'un argument central dans le débat. Donc, c'est la page 5. Dans la mesure où l'image de l'université, exactement, ils sont là si jamais, hein. Dans la mesure où l'image de l'université pourrait être altérée au niveau international par une adresse postale qui la lie à ce personnage aujourd'hui controversé, notre conseil, avec l'accord du rectorat de l'université, envisage de changer le nom de cet espace à titre exceptionnel et sans en faire un précédent. L'argument est important selon moi parce que c'est justement ainsi que le Conseil communal justifie le fait que le changement de nom de l'espace Louis Agassi est un cas spécial qui ne devrait pas créer de précédent à Neuchâtel. J'y reviendrai. Alors pour répondre directement à la première question, en tant que jeune chercheur de l'Institut d'Histoire de l'Art et de Muséologie, et donc de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, le fait que mon adresse postale soit l'espace Louis Agassi ne m'a jamais causé aucun problème pour ce qui est de construire ma carrière ou de faire rayonner l'université. On ne m'a absolument jamais parlé de cette question. Quand je dis que je travaille à l'Université de Neuchâtel, il faut peut-être aussi rappeler qu'il s'agit uniquement d'une adresse postale et uniquement celle de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et non pas, par exemple, de l'université en général et surtout que ce n'est pas non plus le nom de l'université. Ce qui intéresse les autres chercheurs que je peux rencontrer dans le cadre de colloques, par exemple, c'est avec qui je travaille, dans quel institut, dans quelle université et non pas mon adresse postale. De plus, je pense que le nom de Louis Agassi n'est plus aussi connu qu'on voudrait le penser au niveau international. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est le fait que changer le nom de l'espace Louis Agassi en espace Stylo Frey a suscité un large débat et fait couler beaucoup d'encre dans le milieu universitaire neuchâtelois, mais pas seulement, à la fois sur Facebook, dans la presse. Et je vais m'intéresser rapidement à quelques-unes de ces réactions. Sur la page Facebook de l'université, premièrement, le post qui annonçait le changement de nom a suscité 324 j'aime, 12 commentaires et surtout 105 partages. 105 partages, c'est énorme. Ça signifie qu'il y a 105 personnes ou groupes, pas forcément des personnes, mais des groupes également, qui ont partagé l'information sur leur page personnelle. Apparemment, c'est la communication sur la page Facebook de l'université qui a battu tous les records l'année dernière. Au niveau de la presse et de la télévision, puisqu'il y a eu aussi un sujet au 1930, le 7 septembre de l'année dernière, plusieurs professeurs de la faculté des lettres et sciences humaines se sont prononcés sur la question a posteriori. Il faut se souvenir de ça, a posteriori. Jean-Pierre Gelmini, Laurent Tissot, Marc-Antoine Kayser, Alain Corbellari, entre autres. Tous sont à des degrés divers contre le changement de nom. Le professeur Tissot a même proposé une solution afin d'apaiser le débat qui devenait houleux, celle de mentionner l'ancien nom de l'espace sur une plaque, donc en fait d'écrire « Espace Tillaufré, anciennement Louis Agassiz », afin de ne pas donner l'impression de vouloir gommer l'histoire. L'argument que l'on a procédé ainsi, donc de changer le nom parce qu'il était lié à l'université, n'en est pas un pour moi. Je pense au contraire, enfin je suppose au contraire que les valeurs d'esprit critique véhiculées par, par l'université nous permettaient en fait de travailler avec cette adresse en sachant très bien toutes les parts à la fois, enfin toutes les parts de la personnalité de Louis Agassiz. Je vais revenir un tout petit peu aussi sur la position du rectorat. Donc, pour rappel, le rectorat de l'université a eu une dizaine de jours pour répondre au conseil communal. Sa prise de position est d'ailleurs aussi publiée en partie dans le rapport. Et il y a aussi un avis qui a été publié dans un article d'Arc Info. Le rectorat était conscient que, quelle que soit sa position, cela allait faire débat. Le rectorat explique aussi la position qu'il a eue jusqu'à présent sur la question de Louis Agassiz, enfin jusqu'à ce que le nom change. Donc sa position, c'était en fait d'expliquer les différentes facettes du personnage, à la fois de souligner l'importance d'Agassiz en tant que scientifique et son rôle fondateur dans l'existence d'université à Neuchâtel, mais aussi de parler de ses théories racistes, par exemple sur le site internet. Donc vous pouvez par exemple lire ça sur le site internet de l'université. Mais le rectorat rappelle également qu'un changement de nom n'est pas une démarche anodine, qu'il devrait si possible intervenir en lien avec un événement important, par exemple une modification urbanistique. Et puis là, je vais juste faire une petite pointe d'humour. Donc en fait, il y a un article qui est paru dans le journal satirique suisse romand, donc le journal Vigous, le vendredi 14 septembre 2018. Et donc c'est un article satirique, hein. Et c'est le professeur Jung qui se penche justement sur la question de ce qu'il appelle le révisionnisme toponymique. Et il fait un petit exercice de science-fiction en nous racontant comment les noms de rues dans les villes suisses vont évoluer dans les prochaines années suite à la décision de débaptiser l'espace Louis Agassiz. Et c'est assez amusant, et en fait, en 2020, donc on se trouve en 2025, à un moment où le processus de débaptisation arrive à son terme, où seules des personnalités, donc là je cite, des personnalités historiques, végétariennes, non racistes et non homophobes ont droit de s'afficher dans la toponymie urbaine. Et c'est là que, en fait, un groupe opposé à la binarité des genres se rend compte qu'il s'agit toujours soit de femmes, soit d'hommes, et que, en fait, ça ne représente pas les personnes transgenres et qu'il faut tout recommencer. Bref, on se retrouve en 2034 à, en fait, donner des numéros aux rues pour parce qu'on trouve plus de personnes qui répondent, en fait, à tous les critères. Bon, c'est le petit côté humoristique. Et pourquoi je commence avec ça? Parce que, en fait, plusieurs fois, le conseil communal a dit qu'il ne voulait pas créer de précédent avec cette histoire, par rapport aux autres personnages qui posent également problème au niveau des noms de rue à Neuchâtel. Donc, David de Purie, enfin la place Purie, on l'aura compris, par exemple, qui a quand même bâti sa fortune considérable sur le trafic d'esclaves et qui a ensuite légué sa fortune à la ville de Neuchâtel. Et au contraire, en fait, je pense que changer un nom de rue est un geste très fort, lourd en conséquences, et là je pense qu'on est tous d'accord. Et qu'on ne peut pas faire ce choix rapidement. Et que si on le fait, alors il faut être conséquent. Pourquoi Louis Agassiz et pas les autres? Peut-être justement parce qu'il a financé les développements de la ville, donc par exemple Purie, hein. Peut-être parce que Louis Agassiz est plus facile à oublier que les autres, puisqu'il est parti aux États-Unis. En fait, j'appelle à une réflexion généralisée et globale, telle qu'elle est en train d'être faite dans des villes comme Nantes, avec tous les, dans le cas de Nantes, c'est tous les noms qui sont liés au commerce triangulaire, et Madrid. Dans le cas de Madrid, c'est tous les noms qui sont liés à la dictature franquiste. En Espagne, il y a même une loi datant de 2017, controversée par les conservateurs, sur la mémoire historique, qui vise à retirer de l'espace public les hommages hérités de la dictature franquiste. C'est aussi en fait ce qu'a fait Neuchâtel en 1848, après la Révolution républicaine, puisque des mesures légales ont été prises pour qu'on ne retrouve pratiquement aucune trace de la souveraineté exercée par les rois de Prusse dans l'espace public. Et j'ai justement trouvé amusant que Dimitri accuse Louis Agassiz d'être royaliste, encore 150 ans après. Alors premièrement, je ne dis pas que je suis pour ces lois, mais je pense que s'il y a une réflexion, alors elle doit être globale. On ne peut pas se concentrer sur une seule personne et oublier toutes les autres. Deuxièmement, et ça c'est important, si on décide de se lancer dans cette réflexion, alors il faut se poser cette question introspective. Qui sommes-nous pour juger le passé ? C'est très facile de gommer, enfin même si tu as parlé de pas gommer, mais de gommer le passé quand il nous dérange, d'utiliser nos valeurs actuelles du XXIe siècle pour condamner le XIXe siècle. Mais je pense au contraire que la démarche devrait être différente, qu'il faudrait essayer de se confronter au passé pour vivre notre présent et imaginer créer un futur différent et meilleur.
Merci beaucoup. Nous avons une dernière intervenante, Madame Chantal Lafonton-Valoton, qui est co-directrice du musée d'art et d'histoire de l'Université de Neuchâtel, doctoresse lettres, pardon ? Non, pas de musée d'art et d'histoire de la ville de Neuchâtel, et doctoresse lettres de l'Université de Neuchâtel, et donc qui va nous donner aussi son point de vue sur justement cette question assez, disons, aigu de l'effet domino. Voilà, on a commencé avec Agassiz. Je crois qu'on a compris les intentions des interpellants motionnaires, initiants et postulants. Et puis, on voit bien que c'est peut-être l'amorce d'un processus qui pourrait être étendu. Et vous avez eu l'occasion de vous exprimer dans la presse, en particulier, je crois, dans un article du Courrier, en disant que vous ne croyez pas à l'effet domino d'une telle démarche. C'est vrai que M. Facchinetti a rappelé qu'il n'entendait pas faire de cet acte un précédent, mais finalement, quand on prend une décision, je ne vois pas qu'il appartient au conseil communal de Neuchâtel de décider ad aeternum que ça ne serait pas un précédent. Donc, nous allons vous écouter pour comprendre pourquoi il n'y aura pas d'effet domino.
Je vous remercie de la présentation et de l'invitation. Alors, il est bien entendu absurde de vouloir rebaptiser les noms de rue de toutes les personnes qui, à nos yeux d'aujourd'hui, ont eu des activités qui seraient condamnables, qui sont condamnables. Alors, pour moi, il y a une spécificité du cas Agassiz, et j'ai envie de dire qu'elle est triple. Alors, c'est vrai qu'on a mentionné qu'il s'agit d'une adresse d'une université, donc ce n'est pas une adresse ordinaire. On associe à l'université des valeurs, débat critique, égalité et respect de l'autre. Je crois que c'est aussi important de le souligner. Un nom de rue, c'est aussi une marque d'estime, un hommage. Le deuxième point qu'il est important d'évoquer, c'est que, vous l'avez souligné également, alors on est en présence d'une figure, Louis Agassiz, qui a été un théoricien également. C'est ce qui le différencie, en effet, d'un Pourtalès, d'un Depuri. Là, on est en présence d'une figure qui a été un des tenants du racisme scientifique. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, il se trouve vraiment sur le fait que ce nom, il a été attribué dans l'histoire récente et en décalage avec le contexte historiographique et social de l'époque. en décalage avec le contexte historiographique dans la mesure où en 1988, on n'a pas pris en considération les travaux, les études anglo-saxonnes qui portaient sur cet aspect de la pensée de Louis Agassiz. Et il est vrai, lorsqu'on regarde l'histoire de l'université, les pages qui lui ont été consacrées, on reprend les annales de l'université, les écrits, les discours, etc., ce qui nous frappe, c'est qu'on n'a absolument pas mis en exergue ces diverses facettes de Louis Agassiz. Et c'est là où, c'est vrai qu'on s'interroge, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas justement dans une université qu'on doit s'interroger sur ces divers aspects et ne pas être, en quelque sorte, je force le trait, dans une démarche hagiographique. Quand je dis en décalage avec le contexte, c'est également en décalage avec le contexte social. 1988, les années 1980 sont marquées un peu partout dans le monde par des manifestations contre le racisme, l'apartheid, la ségrégation raciale. Et voilà, on est un peu frappé de se dire, mais tous ces événements, hein, il y a ce méga concert de Wembley, 1988, en juin. Hein, donc ce sont vraiment des questions qui sont au cœur du débat, des préoccupations, et on a le sentiment que finalement on ne prend absolument pas en considération ces aspects et qu'une nouvelle fois, le choix se porte sans qu'il y ait un véritable débat, un éclairage sur ces diverses facettes de Louis Agassiz. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de gommage, j'ai de la peine, parce qu'il a été beaucoup question d'une volonté de gommer, révisionnisme, etc. Franchement, le gommage, si on doit utiliser ce terme, il a plutôt eu lieu en 1988, lorsqu'on regarde justement ce qu'il a été écrit sur Agassiz, le fait qu'il a été un des tenants du racisme scientifique, qu'il a exploité son immense autorité pour cautionner justement les politiques ségrégationnistes des États-Unis, on n'en parle pas. Moi, j'aurais envie de dire aussi que ce silence, il est révélateur d'une attitude beaucoup plus générale. D'une attitude plus générale, on le sait, en 2001, on a cette conférence de Durban où un représentant de la Suisse dira « Mais notre pays, finalement, je cite, nous n'avons rien à voir avec l'esclavage, la traite négrière ou le colonialisme. » Donc, jusqu'au début des années 2000, on a quand même une attitude qui est celle de marginaliser complètement, de ne pas débattre, de ne pas discuter. Et on le sait, les recherches historiques contrediront de manière très claire hein, cette assertion. Il y aura d'ailleurs ensuite des déclarations également du Conseil fédéral. Ce qui nous frappe aussi, c'est qu'on a des recherches historiques qui vont être conduites hein, sur l'implication de ressortissants suisses, parce que la Suisse n'est pas une nation négrière, hein, je crois que ça c'est aussi une distinction, enfin, mais on a des ressortissants suisses qui ont été impliqués, et force quand même est de constater que ces recherches seront menées par des chercheurs, universités, Lausanne, à Genève, Suisse alémanique, et il est vrai qu'on est en présence hein, de recherches qui ont été conduites plutôt à l'extérieur et on se dit que c'est dommage, on aurait pu se profiler à Neuchâtel sur ces questions dans la mesure où, justement, il s'agit du passé qu'on a des ressortissants qui a toutes ces questions. Donc c'est en ce sens où je trouve vraiment que le débat d'aujourd'hui est salutaire parce qu'il permet d'engager une réflexion également sur la politique aussi de recherche de ce qui est effectué. Et cette question nous amène aussi à soulever le problème d'accès aux archives, parce qu'il est vrai qu'on est aussi en présence de difficultés lorsqu'on parle de recherche historique sur ces sujets, sur ces questions, sur ces ressortissants. Vous avez des fonds, le fonds pour Thalès, qui est conservé aux archives de l'État de Neuchâtel, et ce fonds, on y accède, il y a des restrictions. Suivant le sujet, vous n'y accédez pas. J'en ai fait moi-même l'expérience, je veux dire. Si les sujets sont... si vous travaillez sur le langage ornemental des indiennes, vous n'avez pas de souci. Par contre, si vous vous intéressez au lien, l'implication de Neuchâtelois, enfin de savoir si on a produit des indiennes de traite ici à Neuchâtel, etc., vous n'avez pas d'accès. Et je trouve que là, il faudrait qu'il y ait une véritable mobilisation, parce que ce sont vraiment des enjeux qui sont importants pour la recherche, pour l'université, pour toutes les questions. Je dirais qu'il y a peut-être une comparaison, il y a un article dans Le Monde qui a été publié en 2017, et il y a peut-être une comparaison intéressante à faire avec Bordeaux. Cet article qui a été publié dans Le Monde sur la réévaluation du passé esclavagiste de Bordeaux, et soyons clairs, Bordeaux, c'est pas Neuchâtel, Neuchâtel plutôt n'est pas Bordeaux. Bordeaux, c'est un port négrier ici, une nouvelle fois, on n'est pas du tout dans cette situation. Mais cet article nous disait que finalement, ces recherches, elles ont été effectuées par des historiens de l'extérieur, parce que il était compliqué pour les historiens du lieu, compte tenu des liens, ce sont des personnes qui se connaissent, etc., de mener des recherches. Alors, je ne dis pas que c'est le cas à Neuchâtel, mais je pense que la question, elle mérite d'être posée également. On est dans une petite ville, on se connaît, etc., et quelle influence cela peut-il avoir? Il y a bien évidemment, je pense, des influences qui sont très positives, parce qu'on sait à quel point les contacts, les réseaux sont importants. Mais voilà, il peut y avoir aussi un autre effet. Pour moi, et je voudrais aussi terminer sur ce point, je crois qu'il est très important de distinguer mémoire et histoire. Je trouve que dans tous ces débats, on a eu tendance à mélanger les choses. Vous avez évoqué, monsieur, cette question. Lorsqu'on parle d'histoire, justement, on parle de recherche, le fait d'intégrer les acquis, d'avoir une approche qui soit critique, etc. Et qu'en aucun cas, dans la décision du Conseil communal, il y a une volonté de révisionnisme. Au contraire, je crois que c'est très important, et la discussion d'aujourd'hui en témoigne, de pouvoir traiter, aborder sous divers aspects, d'avoir un regard aussi qui est critique. La politique mémorielle vise généralement à mettre en exergue les éléments du passé qui sont essentiels pour notre présent et pour notre avenir. Et la décision des autorités de la ville de Neuchâtel de rebaptiser l'espace Thilo-Fraisse s'inscrit dans cette perspective. On est là dans une politique mémorielle qui est tout à fait dans les compétences des autorités de la ville. Et moi, je partage également la proposition du professeur Laurent Tissot, qui est celle de dire qu'il ne faut pas effacer, il faut qu'on puisse stimuler la réflexion sur la politique mémorielle, donc d'avoir la mention anciennement espace ou anciennement Louis Agassiz, une manière de dire on ne gomme pas, mais par contre, on stimule la réflexion. Je terminerai avec cette phrase aussi pour dire que toutes ces polémiques, et c'est bien dommage, ont mis en arrière-plan le parcours vraiment exceptionnel, hors du commun, de Thilo-Fraisse, et que, c'est vrai que c'est bien dommage, parce que là, on est en présence d'une trajectoire, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir cette année, compte tenu aussi de la date 1959-2019, je sais qu'il y a des événements qui se préparent, y compris à l'Université de Neuchâtel, mais voilà, je crois que c'était aussi important de le dire.
Je remercie les quatre intervenants de la clarté de leurs propos. Je crois que les réponses qu'ils ont données aux questions posées montrent bien quelle est la posture qui a été la leur et qui sera la leur au cours de ce débat. Comme vous avez généreusement employé les 5 à 7 minutes que je vous avais accordées, eh bien, je vais couper la seconde partie de mon planning qui consistait à susciter une discussion entre les 4 intervenants et je vais immédiatement ouvrir la discussion à l'ensemble de l'Assemblée. Donc, vous pouvez poser des questions en essayant de répartir un peu vos questions sur les 4 intervenants. Alors, Monsieur Béguin.
Oui, j'aimerais m'adresser d'abord aux censeurs du mémoriellement correct pour leur poser 3 devinettes et une question. Première devinette. Qui a écrit, s'agissant des Juifs, « Vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition. Mais ce n'est pas Drummond, ce n'est pas Maurras, ce n'est pas Rebattet, c'est Voltaire, dans son dictionnaire philosophique. Dictionnaire philosophique où, au passage, il qualifie l'homosexualité de débauche, d'infamie, de vice destructeur pour le genre humain. Deuxième citation, de qui est-elle ? Que serait l'Afrique sans les Blancs ? Rien. Un bloc de sable, la nuit, la paralysie, des paysages lunaires. L'Afrique n'existe que parce que l'homme blanc l'a touchée. C'est pas Drummond, c'est pas Maurras, c'est pas Rebattet, c'est Victor Hugo. Troisième devinette, qui a dit « Nous savons bien que la race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain, quand ce n'est pas par la force du prophétisme, nous savons bien qu'elle manie avec une particulière habileté le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, d'extorsion. » C'est pas Drummond, c'est pas Maurras, c'est pas Rebattet, c'est Jean Jaurès. Alors ma question est la suivante. Ces trois personnages reposent dans ce grand magasin des cendres républicaines qu'on appelle le Panthéon. Est-ce qu'il faut les exclure du Panthéon pour avoir dit ces choses-là ? J'aimerais vous entendre à ce sujet.
Alors je vais donner peut-être la parole d'abord à Madame Lafontaine-Valotan et ensuite à Monsieur Parat.
Je vais enchaîner aussi avec une citation, mais je ne vous la poserai pas sous forme de devinette. L'avocat Arnaud Klarsfeld s'est exprimé récemment, en septembre 2017, concernant la présence de Colbert dans l'espace public. Enfin, je ne vais pas revenir, il y a eu tout un débat en France. Il estime bien évidemment qu'il faut juger les hommes selon leur époque. Cela dit, il écrit, les Juifs ne réclament pas que descendent du pinacle Saint-Augustin, Luther, Voltaire, Saint-Louis et bien d'autres qui étaient des ennemis des Juifs. Ils demandent que soient mis à l'écart, de toute marque d'estime publique, ceux qui, à une période où l'antisémitisme était déjà condamné, amplement condamné par les esprits les plus éclairés, ont participé à la diffusion de la haine anti-juive et à la mise à mort des Juifs. Donc on voit qu'il y a quand même une nuance. Et je pense que cette nuance est vraiment très importante aussi à rappeler. Mais une nouvelle fois, pour moi, ce qui me dérange le plus, c'est que la décision a été prise en 1988 et qu'il n'y a pas eu de débat à l'époque sur ces aspects de la trajectoire de Louis Agassiz.
Merci. Oui, on ne va pas pouvoir refaire l'histoire de 1988 plus qu'on ne peut refaire l'histoire de 1830. Monsieur Parat.
Mais bon, je n'ai pas les mêmes références littéraires que Monsieur Béguin. Je n'ai pas lu Maurras ou Grumont, mais je évidemment que des lieux aussi particuliers que le Panthéon sont un concentré de contradictions et de problèmes historiques et de mémoire. Il y a des gens ont été enlevés, d'autres ont peut-être fait des allers-retours aussi, j'en sais rien. Et ça m'intéresse beaucoup moins que l'histoire de ma propre ville de la science que j'ai eu le plaisir de pratiquer quelques années. Victor Hugo a fait plein de choses bien, il en a fait sans doute plein d'autres tout à fait détestables, mais je connais pas ces éléments et j'ai pas envie d'entrer là-dessus. C'est une diversion intéressante ou rigolote, mais malheureusement je pense que justement ces diversions et de ne pas parler de Tillaufray, à la fois de ne pas parler des rapports coloniaux qui ont enrichi la Suisse, de ne pas parler du racisme structurel qui affecte nos sociétés, C'est justement le problème central qui manque cruellement à l'université de Neuchâtel, hein, parce qu'on ait 5 profs vaguement d'histoire ou tout à fait d'histoire qui disent que c'est un scandale et puis que c'est un titre très bien, ça pose un sérieux problème. Et puis que ce soit Hans Fessler depuis Saint-Gall qui fasse le travail historique sur notre propre histoire ou la faculté d'histoire de, ou excusez-moi, l'Institut d'histoire de l'Université de Lausanne qui doit faire le travail à notre place, ça c'est un problème et ça c'est scandaleux. Voilà, merci.
Oui, moi, si je ne m'abuse, je crois que nos collègues avaient écrit abondamment sur Agassi, donc le travail peut se faire à Neuchâtel, il peut se faire ailleurs, et d'ailleurs dans le débat historique, c'est plutôt mieux quand il y a plusieurs personnes qui font le travail de concert, parce que sinon ça, disons, ça bloque un tout petit peu le débat.
Un savant séducteur est donc notamment une fiction, c'est pas un travail historique, alors c'est une œuvre romancée. Des personnes ont fait un travail bien plus sérieux, je pense à Jean-Paul Cher, mon professeur d'histoire de la géologie, qui a justement fait un travail tout à fait intéressant sur le mystificateur scientifique et la science spectacle que Agassi a réussi à mettre sur pied, notamment en Amérique du Nord, et c'est bien plus intéressant à lire que cet ouvrage.
Merci.
Il est aussi neuchâtelois, donc.
Oui. Je voulais juste répondre quand même que Marc-Antoine Kayser a fait des recherches, hein, en archives aux États-Unis et en Suisse, et qu'il y a un autre ouvrage qui est l'univers du préhistorien, où il parle aussi de Louis Agassi, alors là de façon tout à fait scientifique. Et là, effectivement, c'est une fiction, mais ça se base sur des sources d'archives, et simplement quand il n'y a pas de sources d'archives, alors là, il y a un travail fictionnel, mais il ne raconte pas... totalement une fiction, enfin, juste pour défendre son travail qui est, à mon avis, de qualité. Voilà.
Merci. Autre question ? Oui.
Ce qui m'étonne quand même un peu, c'est que de débaptiser des rues ou déboulonner des statues, c'est un phénomène très massif. Si on prend tout l'espace de l'ex-Union soviétique, combien de centaines, de milliers de rues Staline ont disparu? Est-ce qu'on va protester contre ce fait? Je pense que les changements de nom, c'est un combat politique. Et si on y est opposé, alors il faut mettre des critères. Quand est-ce que c'est justifié? Quand est-ce que c'est pas justifié? Personnellement, pour moi, il n'y a pas de tabou. C'est un combat politique. Et dans la ville de Neuchâtel, il n'y a pas de limite. C'est le débat politique et le rapport de force politique qui dira jusqu'où on ira dans la remise en cause du passé colonialiste de Neuchâtel et donc de ses lieux publics.
Merci. Oui, je vais te donner la parole. Juste quand même dire que la position du Conseil communal n'était justement pas, ne se voulait pas politique. C'est-à-dire que le Conseil communal a essayé de désamorcer la bombe en disant que justement c'était un cas exceptionnel, qu'on avait besoin de l'espace pour Mme Tillaufré, mais qu'il ne voulait pas faire le procès d'Agassi. D'autre part, je dirais quand même qu'il reste, par rapport aux exemples que vous avez cités en Union soviétique ou en Europe de l'Est, il reste quand même le fait qu'on doit faire une différence, et Martha Zurita insistait sur ce point, entre ce qu'on pense et ce qu'on écrit d'une part, et ce qu'on fait ou ce à quoi on participe d'autre part. Et là, dans votre discours, j'avais le sentiment que ce n'était pas aussi scindé que ça aurait pu l'être. Rémi Chevrère.
Oui, il est vrai, monsieur. Et on trouverait de très nombreux exemples, n'est-ce pas ? La place royale est devenue place des Vosges pendant la Révolution et on pourrait multiplier les exemples. Mais je crois que tous les exemples que l'on peut citer ont en commun que ces changements ont été faits, si je puis dire, à chaud, au moment de la violence des événements, dans des moments de révolution presque... au sens mathématique du terme, de changement complet, n'est-ce pas ? Dans le cas d'Agassi, nous sommes extrêmement loin d'un changement à chaud. Il ne porte que sur un seul individu, alors que les changements que vous évoquez portent toujours sur un type d'individu, sur un certain nombre d'individus. C'est quelque chose de général que l'on veut abolir, alors que dans le cas d'Agassiz, on se focalise sur une seule personne qui n'en peut mais, parce qu'il quitte Neuchâtel en 1846, non pas chassé par les royalistes, mais parce qu'il a besoin d'argent, qu'il est endetté et qu'il va à son mal aux États-Unis. Vous dites que la première académie est supprimée par la République. C'est vrai, mais c'est aussi de sort radical, républicain s'il en est, qui demande le rétablissement de l'Académie parce qu'on a bien vu la faute que l'on a commise en 1848. Et les hommes de 48 étaient des hommes intelligents, Dieu merci. Ils étaient capables de réfléchir, en tout cas. Cela dit, que l'on change des noms, c'est constant. On trouvera... Mais généraliser les changements, oui. Se focaliser sur une personne, ça me paraît beaucoup plus difficile. Et la sentence que rend le Conseil communal de Neuchâtel est absolument sans effet sur la rue Agassiz à La Chaux-de-Fonds, n'est-ce pas ? Et on pourrait trouver bien d'autres exemples. Et puis la volonté aussi du Conseil communal de limiter Agassiz à un cas unique et on ne touche pas aux autres noms qui pourraient être mis en cause, c'est se protéger avec un bout de papier, parce que ça n'a aucun sens philosophiquement et d'une manière de réflexion. Donc, en un mot, les changements de noms interviennent, me semble-t-il, dans des moments d'intense mouvement politique ou de profonds changements structurels dans un pays, mais pas à froid dans des occasions particulières.
Monsieur Jeanneret. Excusez-moi.
Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je ne pensais pas du tout prendre la parole, mais les trois orateurs se sont situés dans la question, et Madame Lafontaine, je n'y pensais pas, a pris, s'est placée sur un autre terrain, si j'ose dire. En fait, elle a parlé d'il y a 30 ans, de 88. Alors, c'est intéressant, mais c'est délicat. Monsieur Béguin n'était pas encore chef du département, je ne l'étais plus, donc nous sommes à l'aise à cet égard, celui qui l'était n'est plus de ce monde d'ailleurs. Alors, ce problème me semble ne pas être un problème historique. Si vous me demandiez à moi de vous citer 4 ou 5 ou 6 cas dans l'histoire de la ville de Châtel qui mériteraient un débat comme celui de 88, alors je suis entièrement d'accord avec vous. Si on faisait par exemple un débat sur la traversée par la nationale de la ville de Châtel et tout ce que ça a comporté, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Voilà. Mais alors, je viens à Thilo-Frey, et c'est très intéressant. Quand M. Lavoyer et M. de Soulavie sont partis avec les mercredis de l'histoire, ils nous ont demandé à M. Béguin et moi d'être à côté d'eux pour vaguement les conseiller. Lorsqu'on a parlé de Thilo-Frey, personne n'en savait rien. Et j'ose vous dire que s'il n'y a pas eu le dossier de celui qui vous parle, on n'aurait pas parlé de Thilo-Frey, plus alors quelques dames qu'il avait connues. Mais pourquoi ? Si vous lisez les journaux du lundi d'octobre 71 au lendemain de l'élection de Thilo-Frey, on ne parle pas d'elle. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres choses. Élection du Conseil des États pour la première fois par le peuple. Initiative Schwarzenbach. Changement dans le départ d'un conseiller national populiste qui avait été là un moment, etc. Et il y avait des bringues à l'intérieur des radicaux de la ville de Châtel qui faisaient qu'on ne voulait pas trop parler de cela. Et le mérite de M. Tsoulavie et de M. Lavoyer maintenant, 30 ans après, c'est d'avoir fait ressortir le nom de Thilo-Frey. Et moi-même, je le vois autrement que je le voyais à l'époque, et je pense. Mais lorsque ces messieurs ont souhaité qu'on fasse quelque chose pour tel ou frais, ce n'était pas contre quelqu'un. Et c'est ça qui est le problème central de la décision absolument stupide du conseil communal de Neuchâtel. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler de ça.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une réponse à donner ou un complément? Autre question? Oui.
Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup de ce débat aujourd'hui. Merci beaucoup, madame, d'avoir parlé de Tilo Frey. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir parlé de l'invisibilité de Tilo Frey. Peut-être que monsieur Lavoye et les autres personnes de Neuchâtel ne connaissent pas Tilo Frey, mais je vous dis que les mouvements noirs et les mouvements contre le racisme connaissent bien Tilo Frey. Et en fait, qui était très bien impliqué dans la campagne pour Tilo Frey était d'abord les CRIN, qui est les Carrefour d'action contre le racisme anti-noir, et aussi l'Université populaire africaine. Mais on ne les cite pas, on ne parle pas d'eux. Je ne sais pas non plus si vous connaissez Jovita Pinto, qui est aussi une historienne afro-suisse, qui travaille aussi sur Tilo Frey, mais pas seulement, mais sur les femmes non blanches et les femmes d'autres ascendances en Suisse. Je trouve que c'est très compliqué de lever ces débats-là sans interroger les publics qui se sentent plus concernés. Peut-être que Madame Orgui ne se sent pas consternée pour s'asseoir dans une chaise qui occupe un espace dans l'espace Louis Agassiz, mais moi, d'ascendance africaine et amérindienne, je ne me sentirais pas bien. Donc c'est important aussi d'ouvrir le débat et d'appeler les personnes qui se sentent plus ou moins touchées par ces débats, soit par les théories polygénistes de Louis Agassiz, mais aussi par l'impressionnante présence de Tilo Frey qui est négligée. On a 93% de noms de rues, de places à Neuchâtel qui appartiennent à des hommes. Et je pense que Tilo Frey, elle ne mérite pas seulement un espace. Et bon, un autre détail intéressant, on ne parlait pas de sa candidature parce qu'on ne croyait pas à sa candidature. Les partis radicaux ne croyaient pas à la candidature de Tilo Frey. Ils étaient très étonnés qu'elle soit élue au Conseil national. Et j'imagine pas, en fait, qu'est-ce que cette femme, elle a dû vivre 30 ans de sa carrière dans une petite bataille contre le racisme et les agressions quotidiennes. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait référence à elle, on faisait référence à Madame Conseillère et à ses origines. On ne parle pas de sa guerre, dans sa lutte pour l'avortement et d'autres. Bon, bref. Qu'est-ce qui dérange plus? Est-ce qui dérange qui Louis Agassiz soit plus là, ou bien que Tilo Frey, une femme non blanche, occupe son espace, que Tilo Frey, ou bien que d'autres femmes non blanches occupent les grands panthéons des grands savants? Donc c'est ça qu'il faut qu'on se pose la question. Merci beaucoup.
Madame Delédoré.
Donc justement, ça j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que je trouve très dommage, c'est que justement tout le débat sur Louis Agassiz, en fait, justement mené sur Louis Agassiz, et on parle pas de Tilo Frey. Donc ça je le regrette, en tant que femme, je le regrette, et peut-être que ça n'a pas paru dans ce que je viens de dire avant, mais je me positionne vraiment comme femme féministe, et je suis d'accord avec vous qu'on ne laisse pas assez de place aux femmes dans l'espace public, que les femmes ne sont pas représentées dans les noms de rue, enfin ça je suis d'accord avec vous, enfin, même si je n'en ai pas parlé avant. Et c'est vrai que ça c'est un regret que j'ai eu, c'est aussi parce que le conseil communal a lié les deux sujets, en fait, qui n'étaient pas liés à la base, et je me demande si le conseil communal n'aurait pas dû réfléchir à donner le nom Tilo Frey à une vraie place qui n'avait pas de nom. Et je sais qu'il y a des gens qui ont parlé, justement, par exemple, de la place qui se situe au sud du lycée Jean Piaget, là où il y a la bibliothèque, qui apparemment n'a pas de nom, et puis qu'on aurait pu lui donner le nom Tilo Frey. Voilà. Et ça n'aurait pas lié les deux questions. Voilà. Parfait.
Bon. Je crois que la place en question n'en est pas vraiment, enfin il n'y a pas d'adresse, donc du point de vue de la symbolique, je trouve que ce n'est pas très très fort. Et une nouvelle fois, on est en présence d'un espace, hein, Agassi, je l'ai évoqué, 1988. On est en présence d'une femme qui a eu un parcours extraordinaire, qui est associée bien évidemment à l'introduction du droit de vote, à l'obtention du droit de vote et d'éligibilité. Je profite pour dire, là je fais un peu de la pub pour mon musée, c'est qu'on a présenté à deux reprises, hein, Thilo Frey. On l'a présenté en 2008, dans le cadre, on a un portrait au musée d'art et d'histoire, dans le cadre d'une exposition sur les femmes artistes, hein. Il y a un portrait de Marie-Claire Bodinier, et une seconde fois à l'occasion d'une exposition sur les 40 ans du suffrage féminin, où nous avons également présenté, je salue d'ailleurs la présence de Nicole Bohr, parce que c'était aussi elle qui m'avait rendue attentive à son parcours. On peut aussi dire qu'il y a un mémoire de licence qui a été réalisé sur Thilo Frey, Soferer à l'université de Zurich. Donc voilà, on a déjà eu l'occasion par le passé de s'intéresser, mais c'est vrai que dans le cadre des mercredis de l'histoire, c'était autre chose. Je tiens aussi vraiment à souligner pour moi l'importance, hein, des travaux de Marc-Antoine Kayser. C'est vrai que depuis les années 2000, là, on a un travail qui interroge aussi, qui a interrogé cet aspect de la pensée, hein, d'Agassi, de Sore, etc. Donc là, il y a véritablement un travail considérable qui a été effectué, qui intègre les acquis de la recherche et qui est bien évidemment une référence pour nous. Donc c'est à saluer.
Alors, moi, j'ai juste une question qui, alors, sans vouloir, Madame Thilo Frey, c'est vraiment, je crois, quelqu'un de remarquable, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est le conseil communal qui a décidé de ce changement de place sur un campus universitaire. À mon avis, ça devait être le fait du rectorat et des universitaires de choisir, notamment parmi les professeurs, soit femmes, soit hommes, il y en a plusieurs, il y a eu Claude Favarger, il y a Suzanne Picard, qui est la sœur qui était la sœur d'Auguste Picard, des gens remarquables dont on a parlé déjà, et je ne comprends pas pourquoi le rectorat a dit c'est au conseil communal de faire ça. Alors voilà, j'aimerais avoir une réponse à cela.
Alors, vous avez une réponse ou bien ?
C'est une compétence du conseil communal. La compétence du conseil communal, le conseil communal, ce sont des élus démocratiquement. Je crois que c'est aussi très important, hein, de le rappeler. Donc, c'est une compétence, et ceci depuis très, très, très longtemps. Il y a eu d'autres noms qui ont été changés, qu'on a débaptisés, etc. Donc là, il y a eu véritablement une décision qui était celle de la compétence du conseil communal.
Oui, et j'ajouterais quand même que le conseil communal, en tout cas ce conseil communal, travaille avec le rectorat. Donc je ne pense pas qu'on a imposé au rectorat le nom de Thilo Frey. Les noms que vous avez mentionnés sont des représentants des sciences exactes. Et Mme Thilo Frey est une représentante des lettres, ce qui finalement était aussi un critère qui avait été retenu. Et Mme Thilo Frey, je crois, avait enseigné au lycée Jean Piaget, qui est tout voisin de cet espace Agassi. Donc c'était un deuxième critère qui était retenu. Donc on ne peut pas dire qu'elle soit pas vraiment à sa place en l'occurrence, même si ce n'est pas une personne qui a enseigné à l'université. Je crois que M. Guinan avait la parole.
Oui, merci M. le Président. Mesdames, Messieurs, vous avez déjà entendu deux anciens conseillers d'État. Je ne m'exprimerai pas comme ancien conseiller d'État, mais j'aimerais m'exprimer comme professeur honoraire, comme l'a dit M. Schurer tout à l'heure, et comme ancien recteur. Mesdames et messieurs, moi je suis fâché contre les autorités de ma ville. J'ai deuxièmement un regret, et enfin je suis vexé. Je suis fâché contre les autorités de ma ville parce que je trouve inadmissible que le conseil communal ait pris pour prétexte d'honorer Mme Thilo Frey pour attaquer l'université. Très rapidement à propos de Mme Thilo Frey, je partage pleinement tout ce qui a été dit maintenant. Mme Thilo Frey mérite qu'on l'honore comme première femme élue neuchâteloise au Conseil national en 1971. Il faut trouver une solution pour l'honorer. On a voulu l'honorer en lui proposant de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr que si Mme Thilo Frey vivait encore aujourd'hui, elle serait très heureuse d'être honorée de cette manière-là. Mais je ne parle pas plus de Mme Thilo Frey parce que je suis d'avis qu'il faut effectivement l'honorer. Mais j'aimerais dire que la décision du conseil communal de débaptiser l'espace Louis Agassiz porte atteinte à l'université, parce que c'est attaquer celui qui a été l'un des fondateurs de notre université. Peut-être que sans Agassiz, il n'y aurait pas eu d'université de Neuchâtel, que c'était un grand savant. Moi, je regrette, comme vous tous, qu'il ait eu ces pensées racistes, et je ne veux absolument pas cautionner de ce qu'il a pu penser ou dire par la suite, mais Agassiz est un grand savant qui a porté loin la réputation de l'université de Neuchâtel. J'ai été étudiant à l'université de Harvard, mais je peux vous dire que quand j'y suis arrivé, puis que dans la cour, devant les bâtiments, il y a le buste d'Agassiz, j'étais fier. Ah, Agassiz, il vient de Neuchâtel. Et puis quand je disais que je venais de Neuchâtel, la réaction est de dire « Ah oui, Neuchâtel, Agassiz ». Alors je trouve malheureux que le conseil communal ait ainsi attaqué l'université en voulant changer ce nom. Et encore une fois, je ne discute pas de savoir si Mme Tillaud-Frey doit être honorée ou pas. Elle doit l'être, mais elle pourrait l'être de manière différente. J'ai un regret. Ce regret, mesdames et messieurs, c'est la position du rectorat. Le rectorat, on a cité sa lettre, moi je l'ai lu aussi la lettre, on sent en lisant cette lettre la gêne du rectorat à répondre à cette demande. Je me pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi le conseil communal n'a pas non plus demandé l'avis du département de l'éducation, voire du conseil d'État, dont dépend l'université. On ne connaît pas l'avis du canton sur cette question, mais le canton a tout de même son mot à dire par rapport à l'université. Mais le rectorat, je regrette qu'il n'ait pas eu le courage de dire carrément non. Mais s'il l'avait fait, il le dit lui-même, c'était malheureux, parce que tout ça revient au problème de base qu'on a voulu mélanger, d'honorer Mme Tillaud-Frey et de débaptiser l'espace Agassiz. Par conséquent, la lettre du rectorat ne pouvait être que ce qu'elle est, et je ne le condamne pas, mais je le regrette. Enfin, je suis vexé, mais je ne sais pas si je devrais vraiment le dire, ici c'est plutôt une question d'amour propre, mais avant le débat au Conseil Général, 5 anciens recteurs, dont malheureusement l'un est décédé depuis, c'est vrai que c'était des recteurs du siècle passé, ont adressé de manière très correcte une adresse au Conseil Général pour lui demander d'inciter le Conseil communal à ne pas aller dans le sens où il l'avait décidé. Eh bien, cette adresse, nous n'en avons jamais eu la moindre réception, la moindre accusée de réception, et puis j'ai l'impression qu'on n'en a absolument pas tenu compte. Alors voilà, j'en prends acte, les anciens sont les anciens, j'avais encore le secret espoir que la ville pourrait changer d'avis, j'ai perdu cet espoir. Mais je suis content que ce débat ait lieu ici, à l'université.
Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à M. Scheurer et à M. Parrat.
Il y a beaucoup de détracteurs qui prennent la parole. J'aimerais qu'on puisse défendre notre point de vue aussi, s'il vous plaît.
M. Scheurer avait demandé la parole avant, vous l'aurez après. M. Scheurer. Oui.
Je ne connais pas toute la lettre du rectorat, mais ce qui apparaît de la longue citation qui se trouve dans la réponse du Conseil communal aux interpellations, il apparaît très clairement que le rectorat a été très mal à l'aise et en quelque sorte paralysé par la décision, pour ne pas dire l'astuce, du conseil communal de mélanger le changement de nom, la suppression d'Agassiz, etc. Et dans la situation actuelle, avec les autres questions qui se posent aujourd'hui au rectorat, y compris dans ses relations avec l'autorité, il ne pouvait peut-être pas prendre le risque de passer pour antiféministe en refusant le nom de Tillaud-Frey. Il y a eu là une manière de pression, voulue ou non, mais la force du politiquement correct existe. Encore une fois, que le nom de Tillaud-Frey figure sur un lieu de la ville de Neuchâtel, il n'y a pas d'opposition, mais le rectorat ne pouvait pas s'opposer à la disparition d'Agassiz au profit de Tillaud-Frey, parce que ça avait des conséquences générales trop désagréables. Manque de courage, je ne sais pas.
Monsieur Parat.
Merci. Alors, nous aurons le plaisir au prochain Conseil Général de discuter du soutien de la ville de Neuchâtel à l'université, dans une motion dont je suis l'honorable premier signataire. Et c'est évidemment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur de renforcer ces liens. C'est possible que le rectorat n'ait pas la force ni l'envergure politique pour affronter ce type de questions. Je pense qu'on est aussi face à un manque de débat interne et de réflexion sur notre place dans la société à l'Uni, où on passe notre temps à essayer de sauver des sous parce qu'on vit dans un régime d'austérité depuis pratiquement 10 ans et qu'on a de la peine à avoir des réflexions politiques sur la place de notre université dans la ville et dans ce canton. Peut-être que, excusez-moi, je regrette de ne pas me souvenir du nom de l'ancien conseiller d'État, qu'au moment où il étudiait à Harvard, il était les études postcoloniales n'étaient pas très développées, en tout cas absolument pas en Suisse, et c'était peut-être le début, mais pas vraiment sur la côte à Harvard. Aujourd'hui, on passe pour une université de redneck avec ça. On défend une vision de la science naturelle, créationniste et fixiste, qui est absolument insoutenable pour n'importe qui et il était déjà réactionnaire sur ce point-là à l'époque. Le racisme était déjà à l'époque remis en question, c'est absolument faux, et je tombe des nues d'entendre M. Scheurer dire que le racisme n'était pas un débat parce que le mot n'existait pas, le débat n'existe pas. Et pour moi, il s'agit d'une feinte et d'une astuce que de dire qu'on ne peut pas avoir ce débat aujourd'hui parce qu'on devrait tous les mener de front. On essaye de faire aussi bien que possible un travail politique sérieux. Justement, on a demandé à poser des plaques sur les espaces qui portent le nom d'Agassi. J'ai demandé au sein du conseil de faculté ou de l'association des étudiants en droit de faire une réflexion sur le buste qui figure à l'étage du dessus ici, et on fait les choses petit à petit, et tout vouloir mener de front, ça veut dire justement que vous essayez de nous coincer dans un débat qui sera non scientifique et qui sera justement violent et absurde, et c'est tout ce qu'on essaye d'éviter.
Merci, Madame Delédéré.
Oui, j'aimerais juste revenir sur la position du rectorat. Je voulais juste rappeler qu'apparemment, ils ont eu seulement 10 jours pour répondre, en fait, au conseil communal, et qu'en plus, c'était durant l'intersemestre, donc durant le mois d'août et début septembre, qui est une période, je dirais, où les gens ne sont pas forcément là pour que le débat ait lieu. Et je pense que c'est vraiment un regret que j'ai, c'est que je pense que le débat n'a pas eu lieu à ce moment-là. Et qu'on n'a pas non plus, pour justement des raisons de calendrier, il n'y a pas eu la place pour que le débat ait eu lieu à ce moment-là, et c'est peut-être pour ça qu'il a lieu aujourd'hui, mais c'est a posteriori. Et puis, je voulais juste rappeler quelque chose sur Agassi. Donc, je tire ça donc, du dictionnaire historique suisse, donc de l'article qui a été écrit justement par Hans Fessler et Foucault, Hans Fessler et Hans Barth, et rappeler que en fait, les thèses de Louis Agassi était déjà contesté de son vivant, en fait. Surtout, justement, ses travaux sur les races et contre les théories de l'évolution par ses collègues chercheurs. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Déjà, de son vivant, ça a été contesté. Voilà.
Merci beaucoup. Je vois une question de Mme Bohr.
Oui, non, je voulais juste dire, par rapport à ce qu'a dit M. Jeanneret sur l'invisibilité des femmes, c'est un thème récurrent, l'invisibilité des femmes dans l'espace public, l'invisibilité des femmes dans l'espace médiatique, dans les sciences, c'est un thème récurrent. Ce n'est pas parce qu'au lendemain d'élection de Thilo Frey, qui a effectivement surpris tout le monde, on n'en a pas parlé, et c'est vrai que dans les journaux, on en parle très peu, ce qui est très étonnant. Mais on en parle très peu, c'était vraiment quelque chose de très incroyable qu'on ait élu une femme pour le canton de Neuchâtel, une des 10 premières, et en plus une femme métisse, je veux dire, c'était vraiment à l'image peut-être de ce canton qui était extrêmement ouvert et progressiste. Et donc c'est un thème récurrent, c'est pas parce qu'elle n'était pas importante, c'est juste parce que c'était une femme, et aujourd'hui encore, regardez l'espace médiatique réservé aux politiciennes, il y a beaucoup d'études là-dessus, on sait très bien qu'il y a beaucoup moins de place pour les femmes dans tous ces espaces, que pour les hommes. Et puis, dernière aussi remarque pour M. Guinan, c'est que si plus de 90% des rues, des places de nos villes sont occupées par des noms d'hommes, eh bien, il va bien falloir déloger des noms d'hommes pour y mettre des noms de femmes. Sinon, je ne vois pas très bien comment on va y arriver. Et puis, petit clin d'œil, je trouve quand même assez joli qu'on mette le nom d'une femme métisse d'origine camerounaise pour remplacer un raciste notoire.
Merci. Nous approchons tantôt de la fin de ce café scientifique. Je prends encore un tour de questions. Donc, si vous avez des velléités maintenant, il y a quelqu'un. Oui, monsieur. Non, on enregistre. Voilà.
Merci. Alors, par hasard, il y a deux jours, le Cold Spring Harbor Laboratory, ils ont renoncé deux titres honoraires de James Watson, qui a découvert la structure de double hélix de ADN avec Francis Crick en 1953. Tout le monde le connaît, je crois. Donc, il a 90 ans, il est dans une home, mais il a dit des choses racistes et ce laboratoire a pris l'acte tout de suite. En 2007, ils ont déjà pris un autre titre de lui. Et donc, c'est possible de réagir tout de suite si quelqu'un seulement dit des choses racistes une fois. C'est possible. Et Agassi, il n'a pas dit quelque chose de raciste une fois. Il était un théoréticien qui a, comme c'était évoqué plusieurs fois, qui était à la base d'un mouvement. Donc, c'est pas, je dirais, c'est pas quelque chose. Il est un savant, donc il peut dire n'importe quoi.
Merci. Je me lève pour voir s'il y a encore des questions dans le public. Sinon, oui, monsieur. Il y avait une question de toi aussi.
Oui, bon. Bonsoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, d'accord, je me recule un peu. Je viens de Bienne. J'ai des amis à Neuchâtel qui m'ont demandé, mais pourquoi vous ne demandez pas en tant que UPAF, parce que je suis responsable de l'UPAF, Université Populaire Africaine pour l'Arc Jurassien. Je m'appelle Claude-Alain Schilt. Le directeur suisse n'a pas pu venir. Pourquoi vous ne demandez pas quelque chose d'un peu mieux qu'un petit square? C'est un peu minable pour quelqu'un de cette envergure. J'ai dit, je poserai la question.
Merci d'avoir posé la question. Je ne suis pas sûr qu'on vous donnera la réponse. Jules Aubert.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet intéressant exposé. Moi, j'ai eu la chance aussi de participer au débat et aux discussions au Conseil général. Et ce que je regrette un peu peut-être dans le débat qu'il y a eu, c'est peut-être le grand paradoxe et le manque de courage dans l'ensemble de la réflexion et des discussions de dire, par exemple, de vouloir modifier le nom de la place Agassi, qui est une décision en soi que personnellement je regrette, et ensuite de vouloir mettre par exemple une place Thillaufray, ce que je trouve très bien, mais mettre anciennement Agassi, c'est ne pas se débarrasser d'Agassi, qui est une des volontés d'une part, et ne pas faire toute la place qu'il faut à Thillaufray dans l'espace public, et du coup je regrette un peu ce paradoxe qui voudrait qu'on fasse de la place à quelqu'un, mais qu'on garde quand même l'autre, qui est celui qu'on considère comme un raciste. Donc je regrette que ça se soit passé comme ça, parce qu'il y a un manque de courage, ou en tout cas un paradoxe dans toute cette réflexion qui est un peu dérangeante.
Merci, mais je ne suis pas sûr que la proposition de Laurent Tissot ait été encore avalisée.
Bon, on a discuté en tout cas dans les différentes commissions, et c'était quelque chose qui était quand même un peu retenu de base, donc c'était étonnant de voir que ça se passait comme ça, je trouve.
Merci beaucoup. Comme nous avons encore une minute et demie, je vais demander à chacun des intervenants, en commençant par M. Parat et dans l'ordre, de donner le mot de la fin en 30 secondes.
Alors, banaliser le racisme scientifique et sa responsabilité dans les désastres du XXe siècle est vexatoire pour ses victimes et rend impossible une compréhension analytique du racisme. Nous ne faisons pas du révisionnisme, mais nous essayons justement d'avoir une compréhension réflexive de l'une des pires catastrophes de l'humanité, ou en tout cas du XXe siècle, le racisme et le colonialisme, avec les rejetons horribles qu'il a provoqués de la guerre, de l'esclavage et de l'exploitation coloniale et postcoloniale d'une partie immense de ce monde. Et nous sommes tout à fait satisfaits d'avoir débaptisé, si on doit utiliser ce terme, cette place pour chasser ou, disons, remettre Agassi à sa place dans l'histoire, et d'honorer une femme afro-descendante, radicale, engagée pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, et sans doute l'illustration du meilleur du siècle passé, savoir l'ouverture démocratique, féministe et décoloniale qu'on a connue à partir de la fin, disons, du dernier quart du siècle passé.
Ou Madame Delédoré.
En fait, moi, ça va être très simple. Mon mot de la fin, c'est simplement donnons plus de place aux femmes. Parce que justement, le regret que j'avais, c'est qu'il y avait cette très belle proposition donc, de donner plus de place à une femme, Tilo Frey. Et en fait, le débat, malheureusement, parle plutôt d'un homme. Donc voilà, c'est ça, mon mot de la fin. Donnons plus de place aux femmes et parlons plus des femmes.
Un historien du XIXe siècle disait que l'histoire est la fille des hommes et du temps. Et il est vrai que l'histoire évolue au fil du temps et que l'on n'écrit plus l'histoire aujourd'hui comme on l'écrivait il y a une génération et peut-être moins d'une génération. Mais il y a quelque chose qui demeure, c'est que dans l'étude de l'histoire, il y a l'effort de comprendre le temps duquel on traite, d'essayer de comprendre pourquoi les hommes ou les femmes, mais les hommes en général, ont agi de cette manière, quels étaient leurs ressorts, quels étaient leurs moteurs, quelles étaient les idées dominantes, etc. En corrigeant, comme on le fait par la suppression d'un nom, on agit en appliquant au temps d'aujourd'hui des idées. Tout le monde aujourd'hui parmi nous, Dieu me le souhaite, condamne le racisme. Personne ne soutiendrait le racisme. Mais est-ce que parce que quelqu'un était raciste en un temps où le racisme avait un caractère, on peut dire, dominant, même si c'était peu unanime, eh bien, ce n'est pas une raison pour le supprimer, pour supprimer son nom de l'histoire. Et cela est vrai d'une manière générale. L'histoire n'est pas un point, c'est une durée. Et c'est justement l'altérité qui se produit dans cette durée qui permet de mieux apprécier le présent, de mieux évaluer aussi les directions dans lesquelles on peut aller en fonction de ce que l'on a fait auparavant. Ici, le Conseil communal prend une décision qui répugne profondément à l'historien.
Merci. Madame Lafontaine-Valotan.
Agassi est une figure controversée depuis plusieurs années déjà. Donc je plaide pour plus de cafés scientifiques de manière à pouvoir engager des débats, des discussions, ben voilà, plutôt. Je vais profiter aussi de ces instants, si j'ose, pour annoncer une manifestation qui se tiendra au Musée d'Art et d'Histoire le 21 mars prochain, une table ronde sur la traite des Noirs et l'esclavage, histoire, mémoire et médiation auprès du public. Je précise que cette date et que ce programme a été arrêté au printemps dernier, donc on ne savait absolument pas ce qui allait se passer dans les mois
suivant. Voilà, donc c'est une table ronde avec des invités où il sera question justement de la réévaluation du passé esclavagiste et comment, quelle politique mémorielle dans l'espace public, en ayant également des intervenants de France, des spécialistes du sujet, donc avec des éclairages différents. Alors notez la date.
Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce café scientifique. Je remercie mes invités, je remercie les organisateurs du café scientifique et je vous remercie en particulier vous d'avoir pris part à cette discussion et d'avoir posé des questions stimulantes. Il me semble que nous ne nous sommes pas ennuyés pendant cette heure et demie. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Juste avant le départ, oui, avant votre départ, je vous invite à prendre des programmes annuels, tout frais imprimés, qui sont à votre disposition, que je vais mettre ici vers la table. Et je vous donne déjà rendez-vous le 13 février pour le prochain café scientifique, qui sera un petit peu plus technique et de société, métro, boulot, robot. 13 février, 18h ici même, vous êtes tous et toutes bienvenus, bonne soirée, merci.